Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment.
Témoignage. Parti pris. Coup de gueule. Bienvenue dans Chronique d'un quadrat, le podcast sans langue de bois qui décomplexe les sujets complexes.
Un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal.
This joint is a nice slow joint. I should have guessed Maz would pick this. Bounce! Yeah. Let it swish around a little bit. Come on. Yo. I can't let my guard down all around these losers. Drunk off of sake, purple haze and hookahs. Going for a second, so you better get used to. The illest nigga keep codeine up in his juice cup. This beef banging, so I'm right in my lane. I'm from the same streets where broke niggas fight over change. It's obvious, what? Y'all show the pharaohs respect. You see niggas getting handled, then you're probably next. This for my now why niggas, send a copy to flex. But Philly been getting it in since they popped the cassettes. It's a drama theme, MCs just don't get it. Pistol whip a nigga right out of existence. So hurry, you're the next contestant. Giving niggas the real me without the aggression. Gotta finesse it, the game loves when we spit. Like a pussy whip nigga when he cuffing his bitch. Whoa.
Okay. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique d'un quadrat. Ça y est, on est enfin sur le premier chapitre de ce volume 4 que j'ai intitulé Arpenter le chemin. Alors, arpenter le chemin, eh ben, ça fait la suite à la démarche. Donc dans le précédent volume, c'était un petit peu mettre en place pas mal de choses au niveau perso et professionnel pour avancer. Et arpenter le chemin, ben, c'est finalement constater si ce qu'on a mis en place fonctionne ou si on se heurte à des obstacles en cours de route. Voilà, c'est un petit peu comme ça hein, qu'il faut le concevoir. Donc on est aussi sur le 22e épisode, hein, vous connaissez ma passion des chiffres. Et ce premier chapitre de ce volume 4 qui durera alors soit le même nombre d'épisodes que jusqu'à présent, c'est-à-dire 7 ou 8, ou peut-être qu'il durera plus longtemps, on n'en sait rien, parce qu'arpenter le chemin ça prend du temps, hein, si on considère que je fais ça dans le réel en fait, on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter d'arpenter ce chemin-là. Et ben, ce premier chapitre en fait je le dédie à un mot-clé qui est la fragilité en fait, voilà. Donc qui est un terme que l'on peut entendre hein, depuis plusieurs années et encore à l'heure actuelle, donc la fragilité. Et l'amorosité ambiante, voilà, parce que j'aime bien rajouter un sous-texte aussi derrière, donc fragilité et morosité ambiante. Et bien entendu, bon, pour ceux et celles qui suivent un petit peu ce podcast sur les réseaux sociaux, j'avais envoyé des visuels pour arpenter le chemin, donc le thème de ce volume, qui sont en lien en fait à ce que dit Morpheus, incarné par Laurence Fishburne dans le premier Matrix, hein, des sœurs Wachowski, à Neo, incarné par Keanu Reeves. Il lui dit, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Voilà. Donc, effectivement, comme il dit aussi dans cette œuvre-là, hein, que je vous incite, en fait, à... J'en ai discuté avec un ami et auditeur, voilà, il se reconnaîtra, hein, voilà, qui me disait que ben, lui, à l'époque, il n'avait pas vu Matrix sous cet angle et que ça lui plairait bien, en fait, de se refaire, en fait, la trilogie, la quadralogie, dans ce sens-là. Et effectivement, il y a énormément de choses à l'intérieur. C'est pour ça que c'est une trilogie, c'est une quadrilogie qui peut se permettre de traverser... les époques, parce que ce qui est amené à l'intérieur, donc le fond, non pas la forme, est toujours d'actualité, quoi. Voilà. Et ça le restera, un petit peu aussi comme une autre œuvre sur laquelle j'ai communiqué sur les réseaux sociaux, comme le Fight Club de David Fincher aussi, pareil, hein, qui lui Par contre, il est bluffant d'actualité, et on en parlera aussi dans cet épisode à ce niveau-là. Donc effectivement, Morpheus, guide de Neo dans la trilogie Matrix, lui dit plein de choses, notamment dans le premier épisode, donc il lui dit ça, et il est en fait, quelque part, hein, pour résumer un petit peu ce qu'était Socrate à Platon, voilà. Donc il lui dit aussi, on n'est pas le meilleur parce qu'on le croit, mais parce qu'on le sait. Voilà, c'est important, parce qu'on en est convaincu, en fait. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le point cinématographique, hein, sur les prémices de ce volume qui est dédié à arpenter le chemin. Voilà. Parce que, bien entendu, ici même, je ne suis pas, on va dire, infaillible. Je ne prétends pas détenir une quelconque vérité. Je me base sur mon expérience des faits et j'essaye de creuser certaines questions. Voilà. Certains choix. Une direction. Donc, et effectivement, quand je me rends compte un petit peu de l'audience et quand je discute un peu avec les uns et les autres, je me rends compte que c'est des questionnements aussi que vous avez, voilà, et que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est des questionnements dans une société comme la nôtre aujourd'hui qui se tend, et qui se tend à l'extrême, on en revient à se poser beaucoup de questions, voilà, et à se poser la question de la posture, etc., et de la direction, et de l'objectif, et du but, en fait, voilà. C'est aussi quelque chose qu'il y a dans la trilogie Matrix, notamment quand on a l'agent Smith, qui dit que voilà, maintenant qu'il a un but, il sait qu'il y est quelque part, en fait, voilà, et qu'avant, il n'avait pas de but, voilà, et que grâce à Neo, il a un but, voilà. Donc, tout tourne autour, en fait, de cette question du rôle, du purpose, in English, et voilà, du but de chaque chose, du voilà, où on va, après c'est des questions antédiluviennes, hein, quelque part, hein, c'est-à-dire l'homme très rapidement, au lieu de regarder ses pieds, a levé la tête en direction des étoiles et s'est posé la question. C'est ça qui fait de nous aussi, on va dire, les animaux les plus intelligents, parce qu'on reste des mammifères, hein, donc on est l'animal conscient d'être un animal parmi les autres et qui réfléchit, et on s'est posé la question de quel est notre rôle dans tout ça, en fait, voilà, vers quoi on tend. Voilà, des grands questionnements philosophiques pour démarrer cet épisode. Et je souhaitais rajouter, en fait, une petite pastille par rapport à l'épisode précédent. Donc déjà, je suis assez content des retours, parce que, voilà, quelque part, au lieu de faire sourire certains et certaines, bah, ils se sont dit, il revient un petit peu aux affaires, voilà, donc on a senti un petit peu l'énergie et une espèce de forme de conclusion, en fait, des trois derniers volumes, donc voilà, j'ai eu pas mal de retours positifs. Bon, bien entendu, j'ai toujours forcément, en fonction de qui écoute ça, des haters et des haters, hein, quelque part, qui m'envoient des choses en MP, et forcément aussi en commentaire sur les plateformes d'écoute, etc. Bah, je dis, bah, y a pas de souci, hein. Vous pouvez envoyer ce que vous voulez, et j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, hein, si ce que je raconte ça ne vous plaît pas, bah, ne l'écoutez pas. Maintenant, si vous avez quelque chose à rajouter, je vous invite à échanger avec moi. Voilà, ça s'appelle un débat aussi, d'idées. Donc, il y a aucun problème, voilà, à ce niveau-là. Donc, effectivement, j'ai oublié aussi de rajouter une chose, voilà, qui, parce que je suis toujours dans la réflexion aussi, parce que je parlais dans l'épisode précédent de masculinité, de testostérone, de modèle masculin, et en fait, dans ce que je soulevais, moi, dans mon absence de modèle masculin, eh ben, ça a fait écho aussi à ma passion pour le cinéma et une certaine forme de musique, en fait. Je suis, et c'est vrai que souvent quand j'en discute en tant qu'intervenant avec des étudiants, etc., c'est vrai que, alors c'est même pas une question de génération, c'est vrai que moi je suis pas team Harry Potter, en fait, quelque part. Voilà, je suis pas sur ces créneaux-là, je suis plutôt team Aragorn du Seigneur des Anneaux, plutôt team Schwarzenegger, team Stallone, etc., et effectivement, en y réfléchissant bien, par exemple, même en termes d'actualité quand on voit la sortie du dernier John Wick. C'est vrai que mon attrait pour un certain type de cinéma d'action, un certain type d'anti-héros ou d'héros masculin au cinéma, ben effectivement, quelque part, cette cinéphilie que j'ai construite à l'adolescence dans une certaine direction est quelque part, et mais c'est même certain, voilà, c'est là où aussi on fait écho dans la trilogie Matrix à connais-toi toi-même, voilà, donc ce qui est au-dessus de la porte de la cuisine de l'oracle, voilà, hein, qui bien entendu n'est pas lié à Matrix, hein, le connais-toi toi-même, ça vient pas de là, mais quelque part, cet attrait pour ce cinéma-là, ces figures-là, ça a été peut-être pour moi un moyen de me construire, on va dire, ce symbole masculin paternel que je n'ai pas eu, en fait. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas eu de père, attention, je précise bien. Je dis bien que ce qui m'a manqué en termes masculins, j'ai été le chercher, voilà, dans mon éducation, et j'ai été le chercher dans le cinéma. Voilà, j'aime bien rajouter ça pour être en accord avec moi-même. Et certains me diront, mais oui, en fait, finalement, tu continues juste à raconter ta vie, quoi. Donc, effectivement, voilà, c'était le dernier petit socle de compréhension sur moi-même que je rajoute pour, voilà, pour vraiment... Voilà, ça manquait. Voilà, ces quelques petites minutes, ça manquait vraiment sur l'auto-analyse dans l'épisode précédent. Voilà. Et donc là, maintenant, on va embrayer sur cet épisode dédié à la fragilité. Alors, ce qui est assez drôle là-dedans, c'est que moi, je comptais l'attaquer comme ça, sans pour autant avoir d'exemple, on va dire, de fait expérimenté IRL. Donc je comptais l'attaquer comme ça parce que c'était un sujet voilà, que je constate à une ou deux ou trois poignées de main, mais ce qui est beau là-dedans, c'est quand la réalité, j'ai envie de vous dire, rattrape pas la fiction, mais quand les événements du réel rattrapent une certaine forme de direction que j'avais entreprise dans le podcast. Donc c'est quand même, donc voilà, j'ai envie de vous dire, cet épisode est d'autant plus sourcé que j'ai pu expérimenter la fameuse gifle de réalisme d'une société tendue à l'extrême qui est la nôtre. Voilà, cette société aujourd'hui que j'ai déjà traitée dans d'autres épisodes. Alors, attention, hein, je ne suis pas le seul à en parler. D'autres l'ont bien mieux fait, ou beaucoup plus argumenté. En tout cas, moi, j'ai essayé d'amener une pierre à l'édifice, d'être complémentaire. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire, hein, que ce soit dans mes podcasts sur le cinéma ou mes podcasts musicaux. J'essaie d'être complémentaire, ou des fois d'être original et unique quand ça n'a pas été traité, mais quand ça a été traité, j'essaie d'être complémentaire pour ne pas paraphraser, ne pas faire de la redite, parce que ça ne sert à rien. Donc déjà un raisonnement comme celui-là, ça serait bien que, on va dire, 90% des youtubeurs, hashtag influenceurs, hashtag influenceuses, hashtag podcasteurs, podcasteuses, puissent se poser la question plutôt que de surfer vulgairement sur un algorithme et de ne faire que ce que font les autres, en fait, que ça soit sur de l'actualité, que ça soit sur du fait de société ou autre. Donc voilà, je le répète, ce qui est bien avec, on va dire, le modus operandi du podcasteur ou de la podcasteuse, c'est qu'on peut se permettre, en fait, de diluer dans le temps et de prendre le temps de traiter un sujet et vous le consommez et ben dans un futur plus ou moins proche qui va être le vôtre et pas forcément le mien, et on verra si dans les années à venir, j'ai eu du nez ou pas. Ou sinon, ça sera juste, comme vous savez, certains documents, vidéos que ressort l'INA pour montrer pour le constat d'une époque. J'espère. Alors, on va dire que mon côté optimiste espère que ce que je raconte ne sera que le constat d'une époque donnée, d'une époque troublée, en perte de repères. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on voit qu'un film comme Fight Club de 1999, tiré d'un bouquin de Chuck Palahniuk qui avait été écrit quelques années auparavant, donc ça veut dire qu'on peut facilement dire que quelque chose qui a été balancé il y a 30 ans a un écho aujourd'hui, en fait. Voilà. Et donc ça par contre, ça fait peur. Et en même temps, Freud aussi a écrit sur le déclin de nos sociétés modernes, et c'était il y a un siècle, et on y est. Donc oui, effectivement, j'espère ne pas être une Cassandre, entre guillemets. Voilà, j'espère que certains et certaines comprendront la ref, bien entendu. Donc voilà, donc le point de départ en fait, hein, on va définir en fait, hein, déjà dans un premier temps, parce que j'ai fait un espèce de plan quand même, hein, un petit peu étudier ce qu'est la fragilité. Et on verra pourquoi c'est aujourd'hui c'est une actualité, ça, cette fragilité. Et j'ai presque envie de vous dire, ça, c'est presque putain un mode de vie, quoi. Donc, alors, la fragilité, hein, selon le dictionnaire Larousse, parce que c'est important, hein, de citer ses sources, c'est caractère de ce qui est fragile, de ce qui se brise facilement. Ça, c'est une première définition de ce qu'est la fragilité. Donc, on imagine une brindille, voilà, qu'on prendrait dans sa main et qu'on pourrait briser. Voilà, c'est pas la même chose qu'une branche un peu épaisse de chêne. Va falloir peut-être une tronçonneuse pour la briser. Donc voilà, donc caractère de ce qui est fragile, de ce qui se brise facilement. On peut aussi trouver dans un second temps le caractère précaire, vulnérable, faible et instable. Et moi, je trouve ça intéressant que dans cette deuxième définition, on ait ce côté de l'instabilité, en fait. Voilà, fragilité égale instabilité, en fait. Donc voilà, caractère précaire, vulnérable, faible et instable. Et on trouve en troisième ligne, manque de robustesse de quelqu'un. Voilà, donc ça, c'est la fragilité, c'est le manque de robustesse de quelqu'un. Voilà, donc on l'attribuerait, voilà, c'est le caractère fragile d'une personne, par exemple. Voilà. Un manque de robustesse. Alors cette robustesse, elle n'est pas globale, hein. On peut manquer de robustesse, je ne sais pas moi, dans la gestion de l'administratif. Et être robuste, on va dire, dans une présentation client. Voilà, et défendre quelque chose. Donc la robustesse n'est pas globale. Ça peut être un caractère d'une personne où ça manque de robustesse. Voilà, moi le premier, et ça j'y travaille, hein, donc je travaille toujours à combler mes lacunes. J'estime être arrivé à un taux de satisfaction plutôt moyen de ma gestion de l'administratif. Donc moyen plus. Donc si je devais me donner une note, ça serait 12 sur 20. Avant, je me serais donné 5 sur 20, voire 4. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a de l'amélioration. Donc voilà, donc ça c'est le point de départ de cette chose-là, qui est la fragilité. Alors, sur ces définitions, moi je vais rajouter un phénomène, un événement, voilà, je vais le relier à plusieurs événements en fait, que j'ai pu expérimenter sur, on va dire, ces 5 dernières années. Et là où c'était, on va dire, mignon à un moment donné, où voilà, bon, c'était pas forcément dommageable, là aujourd'hui ça le devient. Donc voilà, je vais définir, et effectivement, ces exemples-là, j'en suis à 3 voire au-delà, donc ça veut dire qu'on est sur une récurrence, voilà, dans mon vécu, dans mon expérience, voilà. Effectivement, il y a de cela 5 ans, et tout ça sera dans le contexte en fait du boulot, en fait, hein, voilà, du travail, du monde professionnel. Donc si je calcule bien, faisons le bon calcul, parce que moi je dis il y a 5 ans, je balance ça comme ça. Non, c'est pas il y a 5 ans, c'était entre 2 confinements, donc ça devait être du 2019, du 2020, bon, c'était il y a 3 ans et demi. Voilà, moi étant indépendant, j'avais perdu quasiment tous mes contrats, et effectivement, j'avais réussi à conserver l'enseignement, du coup, en visio, plus certains nouveaux types de produits liés à de la création de l'habillage graphique pour de la visio, voilà. Donc, mais bon, j'avais quand même perdu, si ce n'est pas la moitié presque de mon chiffre d'affaires en l'espace de quelques mois. Et effectivement, j'étais en recherche active dans l'entre-deux confinement. Voilà, c'est presque l'entre-deux-guerres, l'histoire. Et du coup, j'avais réactivé pas mal de réseaux. Et j'avais fait un entretien pour une société où un de mes collègues y bossait. Voilà, et c'est vrai que c'était toujours un acte manqué un peu d'avoir cette société comme client. Mais à l'époque, effectivement, comme j'avais plein de clients, j'avais pas relancé forcément, l'entreprise ne m'avait pas relancé elle aussi, donc au final, voilà, mais on s'était plus ou moins toujours tourné autour, Et effectivement, voilà, moi je me pointe à cet entretien, bon c'est pour de la prestation, hein, donc c'est-à-dire en répondre à un besoin sur de l'animation ou de la vidéo, donc peu importe. Et effectivement, je me pointe à cet entretien, et donc il y a aussi mon collègue, hein, donc je me pointe à cet entretien, je vois le chef d'entreprise, donc j'y vais. Alors j'étais pas encore dans le niveau de détail vestimentaire de la pince à cravate, etc., et ainsi de suite, mais... J'étais sapé, mais enfin voilà, pour le monde du professionnel, je crois, j'étais blazer, une chemise, enfin voilà, un jean, enfin voilà, efficace, presque le complet du start-upper. Et effectivement, donc j'y vais, je fais un, et souvent moi je fais des, voilà, quand je vais démarcher du client, donc ça c'est ce que j'ai pris l'habitude aussi à tous les niveaux d'être cohérent, c'est toujours plus ou moins du keynote quoi, donc j'y vais, je présente en fait le showreel, les différentes compétences, j'argumente, voilà, on est, voilà, je suis vraiment sur une présentation classique, ce que j'apprends en fait à mes étudiants dans la posture, la prise de parole et ainsi de suite. Et je sens que c'est plutôt pas mal hein, en fait. Voilà, je sens que, enfin, j'ai l'habitude, je sens que voilà, j'ai bien ciblé le besoin, etc. Et le chef d'entreprise, qui lui, en tant que chef d'entreprise, voilà, on va en parler aussi parce que effectivement, les vêtements aussi en disent long, la posture, lui, il est pas du tout là-dedans alors qu'il est chef d'entreprise. Il est plutôt dans le côté un petit peu New Balance, Steve Jobs du pauvre. Voilà, donc bon. Ça, vous en penserez ce que vous en penserez, mais effectivement, il y a une petite différence à ce niveau-là. Et bon, je fais ma présentation, il est content, et il me parle de suite, en fait, de tarifs et de disponibilité, etc. Donc forcément, moi, quand on en arrive là, dans le contexte du professionnel, quand on parle de disponibilité, est-ce que tu es disponible dans 15 jours, etc., et de tarifs, ça veut dire qu'on va partir. Alors, il n'y a pas encore le devis, mais ça veut dire que c'est déjà plus ou moins engagé. Donc, on est déjà, c'est un petit peu comme dans le dating, quand on commence à faire des projets, voilà, à deux, très rapidement, on parle de ce qu'on voudrait, etc., de feuilles de route, et ainsi de suite, ça veut dire que potentiellement, on s'imagine. Donc voilà, après, ça peut capoter, bien entendu. Mais on a déjà franchi un cap. Donc là, moi, je suis plutôt confiant, etc. Et du coup, je bloque en fait ce créneau-là, sans trop le bloquer, mais je bloque un peu. Je fais patienter d'autres clients pour avoir ce contrat-là. Et j'ai pas de retour, en fait. J'ai pas de nouvelles. Et moi, j'ai des clients à côté. Bon, ça commence à redémarrer, parce que j'avais pas été que, on va dire, sourcer ce client-là. Voilà, j'attendais pas qu'après lui. C'était une des pistes potentielles, donc j'en avais d'autres. Mais effectivement, j'aurais aimé à l'époque le rentrer parce que il y avait plusieurs possibilités, quoi. Voilà, avec ce client-là dans le moyen et long terme. Donc pas de nouvelles. Donc bon, au bout d'un moment, il faut bien que je donne des réponses à des clients sur ce créneau-là. Je rappelle mon collègue et tout. Je dis bon ben, je dis qu'est-ce qu'il en dit là, ton patron, etc. Oui, alors je l'ai eu. Finalement, on va le faire en interne. Et je dis mais ça, je dis vous pouvez pas le savoir avant. Je dis parce que ah non, je suis désolé. Bon. Je reste là-dessus. Moi, généralement, quand c'est comme ça dans le boulot, je passe rapidement à autre chose. Voilà, ça, c'est le côté entrepreneur. Voilà, je passe rapidement à autre chose. C'est un petit peu comme, je sais pas moi, le dating sur le site de rencontre. Il y a peu d'impact à l'instant T. On n'a rien vécu, donc on peut rapidement passer à autre chose en fait, sur des relations très courtes, sur des dates comme ça. Pareil, je passe à autre chose. Et cette anecdote n'est pas finie, donc ça, ce premier exemple n'est pas fini. Et effectivement, une fois que moi j'ai bien remonté ma structure post-Covid, une fois que j'ai bien remonté, j'ai ce même collègue qui me contacte et il me dit oui, mon patron et tout. Alors j'avais été le voir à un apéro, voilà, on avait pris un apéro ensemble, hein, et mon collègue me dit oui, j'ai discuté avec mon patron, il aimerait bien que tu nous mettes c'est pas comme ça que ça commence dans un. Non, si, c'est comme ça que ça commence, désolé, je m'embrouille un peu, mais c'est parce que l'ordre des faits est intéressant. Il dit oui, j'aimerais bien que tu nous mettes en relation avec telle structure que tu viens de rentrer, parce qu'on aimerait bien bosser avec eux. Alors moi je réfléchis et tout, je me dis bon, déjà intérieurement je me dis enfin mon coco, avant que je te mette en relation alors que toi tu m'as rien amené, bon, on verra. Après ça reste un collègue, hein, je voulais pas non plus le mettre en porte-à-faux et lui faire payer quoi que ce soit. Et puis après je sais pas, on en vient à discuter tous les deux et il me dit je dis bon, et finalement comment ça s'est passé sur ce projet? Ah ben on a fait appel à quelqu'un. Putain, je le regarde comme ça, je lui dis mais vous avez fait appel à quelqu'un? Je dis mais vous m'avez dit que vous le faisiez en interne. Ah oui, c'est vrai. J'ai dit, mais tu te fous de ma gueule, là. Je dis que ça soit toi et ton patron, vous foutez de ma gueule, là. Et j'ai vraiment dit ça. Il me fait, non, non, mais bon, tu sais, après, lui, il est comme ça. Il aime les gens simples. Quand il t'a vu habillé comme ça, ça faisait trop pour lui et tout. Et je les regarde et je lui dis, mais attends. Je lui dis, attends. Je lui dis, moi, en tant qu'entrepreneur professionnel, je lui dis, ça lui fait trop pour lui que je sois professionnel dans mon boulot et que ma tenue vestimentaire soit en cohérence avec la qualité du travail. Et je lui dis, ça fait trop. Et donc, je dis à mon collègue, je dis, ne le prends pas mal. Et je lui dis, mais tu transmettras. Et je lui dis, tu peux lui transmettre comme ça. Et je lui dis, vous allez bien aller vous faire foutre tous les deux. Et je lui dis, voilà. Je lui dis, d'une, ne comptez pas sur moi pour que je vous mette en relation avec cette société. Alors ça, vous pouvez vous le carrer bien profond. Je dis, et deuxièmement, je dis, une chose est certaine, c'est que nous ne travaillerons pas ensemble dans l'avenir. Voilà. Je dis, intégrez ça. Je dis, vous foutez de la gueule du monde, là. Je dis, et je dis, toi, tu me sors ça comme ça à l'apéro. Genre, je t'en veux beaucoup moins parce que, voilà, t'es salarié du truc, c'est pas toi qui maîtrise. Je dis, par contre, en tant que chef de projet, il va falloir peut-être intégrer. Je dis, mais par contre, ton patron, il peut aller bien se faire foutre. Voilà. Donc, ça, c'est la première anecdote. Voilà. Donc, première anecdote à ce niveau-là. Deuxième anecdote, voilà, parce qu'il faut qu'on en arrive à trois pour pouvoir avoir une récurrence et déboucher sur la suite des opérations. Deuxième anecdote, ça s'est passé il y a un an aussi, dans une volonté de pouvoir évoluer dans certains postes, parce que même si je suis indé, même si j'interviens dans beaucoup d'endroits, je garde toujours en tête de penser plus ou moins à mes vieux jours ou à une deuxième ou troisième partie de carrière où je pourrais, par exemple, basculer complètement dans le salariat, mais pour un poste à responsabilité et avec le revenu associé, bien entendu. Voilà. Et effectivement, c'était ça l'année dernière, j'étais parti en quête, en fait, de gestion pédagogique et de direction, oui, c'est plus ou moins ça, ou de co-direction, de département pédagogique dans des campus, en fait, voilà, sur la région Occitanie. Et c'est vrai que je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, j'ai entendu que, voilà, donc j'ai vu passer une offre, je connais quelqu'un voilà, qui bosse, bon, bah, ça peut peut-être me permettre de jouer une carte, en fait, voilà, de jouer une carte à ce niveau-là. Et pareil, je fais, j'y vais. Alors là, par contre, oui, ouais, j'avais la cravate, etc. Enfin, un code vestimentaire. Alors attention, on n'est pas dans les loups de Wall Street. C'est-à-dire que moi, j'ai un code qui est le mien. C'est-à-dire que ça va être plutôt, si on devait le classifier, quelque chose qui soit un mix entre ce qu'on peut voir chez Harvey Specter dans la série Suits et un truc un peu plus cool au niveau du bas, c'est-à-dire des jeans un peu used. Donc on n'est pas sur un complet costard, mais voilà, j'amène en fait une idée, donc voilà, je réassocie des codes, et du coup ça fait une identité qui me plaît bien, en fait, voilà, qui est, on va dire, ce qui me définit. Voilà. Et j'en ai déjà parlé de ça, de cette cohérence dans le vestimentaire, dans le choix de la musique, dans le choix du cinéma, dans la gastronomie, etc. Alors une cohérence à ce niveau-là et d'aimer les jolies choses, en fait. Et effectivement, bon, voilà, j'y vais voilà, avec le blazer, la cravate, la pince à cravate, les boutons de manchette, etc. Enfin voilà, tenue qui pose un peu les bases, et toujours pareil avec un keynote étudié par rapport. Et en plus, j'ai de l'expérience, je bossais dans plusieurs campus concurrents, donc je connais ma valeur sur le marché, je suis assez demandé à ce niveau-là, donc au final tout était ouvert, et en plus j'étais recommandé par de multiples personnes à l'intérieur de ce campus. Voilà. Et dès le départ, j'ai senti que le game était biaisé, parce que j'ai été reçu du coup par des personnes qui sont en basket, en jean, et qui représentent en fait l'état d'une société actuelle. Et dès le départ, on me fait la remarque, on me fait « Ah oui Ah ouais, quand même, oh là là, ah t'es en costard, nous ici on n'est pas du tout en costard, on est un peu à la cool, ah oui, t'as un keynote et tout, oh là là, tu le pilotes avec le téléphone, tout ça. » Donc je déroule en fait tout ce que j'ai à dérouler, et je repars confiant, si ce n'est que le point de départ, il me fait un peu tiquer. Et ben, je vous le donne en mille, c'est moi qui ai couru après... la réponse, voilà, réponse qui a été plus ou moins à cheval sur plein de choses, du fait que, non mais en fait finalement on voulait plutôt prof, mais pas pour de la pédagogie, mais on n'était pas forcément sur la création d'un poste de pédagogie, où j'apprendrai plus tard qu'un poste a été créé, mais qu'on a fait monter quelqu'un en interne qui ne correspond en rien à ce que je suis, en fait, Voilà. Alors que moi, j'amenais cette idée plutôt de rigoureuse. Et alors qu'en plus, l'habit ne fait souvent pas le moine, parce que généralement, il n'y a pas plus punk que moi dans l'âme et ouvert d'esprit à ce niveau-là, mais il faut avoir une certaine forme de posture et véhiculer une certaine idée. Voilà, moi, quelque part, je suis un petit peu l'écueil, quelques morceaux des meilleurs profs que j'ai eus, par le passé, et j'ai composé mon patchwork. Et effectivement, ce que j'appréciais dans certains profs, c'était une certaine forme de posture, et il nous amenait une certaine forme d'idée, de direction, en fait, voilà, de modèle, quelque part. Voilà. Donc je n'ai pas cette chose-là parce que trop, c'est trop, ça doit être trop en fait. Voilà. Et donc troisième cas de figure, et ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté il y a de cela 15 jours, qui m'a bien fait péter un câble quand j'ai été face à la réalité et que j'ai ruminé quelques temps, mais c'est pas de la rumination dans le sens où c'est juste effarant qu'on en arrive là. C'est-à-dire que ce que je développerai par la suite, le signal d'alerte, c'est que je le touche du doigt. C'est pas quelque chose que j'observe de loin. Moi, certains auditeurs, certaines auditrices m'ont dit « Oui, mais tu sais, des fois, ce que tu avances, etc., enfin, moi, je l'expérimente pas trop, et tout ça. » J'ai dit « Ben, moi, je te garantis que ce que je vais te raconter maintenant, moi, je l'ai expérimenté, en fait. » Voilà. Je l'ai expérimenté, et si tu vis pas au fin fond de la montagne, tu l'expérimenteras toi aussi, selon un certain cas de figure. Voilà. Et ça plaira aussi, ça va vous plaire aussi, hein, pour cette notion d'égalité homme-femme aussi. Voilà. Il y en a qu'un seul des deux qui est oppressé. On va en parler dans 2 secondes, en fait. Donc voilà. Et je suis pas en train de me poser en victime, hein, moi, à ce niveau-là. Je m'en fous un petit peu. Je dis ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire. Donc voilà. Et c'est personne qui va décider pour moi, en fait, de comment ça se passe. Je mets un peu d'ASMR, hein, toujours. D'ailleurs, je vais prendre un petit coup de vapote. J'aime bien mettre des pauses. Hein. Ça fait un peu de teasing, ça fait un peu de suspense avant de balancer cette troisième anecdote. Donc, il y a de cela quoi, une quinzaine de jours. Donc, bien entendu, pour ne pas me mettre en porte-à-faux, parce qu'on en est là, hein, y a de la liberté d'expression, et la liberté d'expression s'arrête au moment où tu te fais virer et on est dans la délation. Donc, on dira qu'un client récurrent avec lequel je travaille fait régulièrement le point avec moi, voilà, c'est une jolie petite histoire que je vous raconte, de manière annuelle, pour savoir sur quel type de projet on part pour l'année suivante. Voilà, donc c'est toujours un nombre de projets à attribuer en fonction des années. Et ce client, dans son administratif, dans sa hiérarchie, en fait, il y a plusieurs têtes pensantes. Voilà, vous voyez, plutôt comme une hydre à plusieurs têtes. Et une des têtes qui est responsable d'un département projet bien spécifique, bah, comme à son habitude, me convoque et me fait un petit point. Voilà, et il commence par me faire le point suivant, et ça, ça m'a plu. Et c'est ce que je qualifie, je fais une petite ref à Reed Hastings, hein, le patron de Netflix, hein, qui avait comme habitude de faire ça aussi dans ses réunions avant de licencier des gens. Et donc, dans le bouquin sur la création de Netflix, on appelait ça, enfin, voilà, le narrateur appelait ça le sandwich à la merde. C'est-à-dire une bonne tranche de pain, de la merde, et une dernière tranche de pain pour terminer, en fait, histoire que ça passe bien. Et effectivement, cette personne commence à mettre une tranche de pain plutôt épaisse, du bon pain de campagne, hein, qui est bon, bah écoute, hein, voilà, comme tu le sais, comme d'habitude, ce que tu fais, c'est toujours très professionnel, tout le monde est content du résultat de ce que tu livres, etc. Dis ça, ça, il n'y a pas de souci, quoi. Et il y a toujours un « et » quand c'est comme ça, ou un « mais ». Voilà, je le vois arriver, je dis « et donc ?» Et il me fait « donc, par contre, j'en profite pour te le dire, ce qui remonte, enfin voilà, moi, je te fais, voilà. » Et puis il me la joue, tu sais, comme le messager, voilà. Ce que je te dis là, c'est pas moi qui le dis, mais si, c'est bien sûr que c'est toi qui le dis. Et j'ai envie de te dire, heureusement qu'on n'est pas dans 300, le film de Zack Snyder, parce que j'aurais presque envie de t'expliquer comment il finit le messager des Perses, en fait. Voilà. Il finit dans un puits, le type. Hein. Voilà. Il se prend un bon coup de pied, un coup de sabre, et il finit dans le puits. Voilà. Donc, mais bon, ne tuons pas les messagers pour l'instant. Donc, il me dit, voilà... sur tes demandes d'avoir plus de projets, tout ça, ben en fait, voilà, je te dis, quel est le problème, pourquoi t'en as pas plus, c'est parce que t'es trop sûr de toi. Alors là, alors, moi, je suis prêt à tout entendre, voilà, et c'est vrai que c'est une discussion aussi que j'avais eue avec ma fille, puisque voilà, de temps en temps, je lui donne des conseils vestimentaires pour... Parce que dans la direction des études qu'elle veut faire en termes de posture, c'est déjà bien, voilà, de refléter. Voilà, tes vêtements reflètent un petit peu comment tu t'adresses au monde et la perception qu'a le monde de toi, en fait. Hein, voilà. Et effectivement, on lui avait fait une remarque qu'elle était trop bien habillée. Parce qu'elle a certains types de blazers féminins, c'était trop bien habillée. Et moi, j'ai dit à ma fille, je lui dis, mais attends, on est vraiment dans une drôle d'époque, hein, je lui dis, parce que. Moi, il me semble, quand on est trop bien habillé, on fait pas de remarques. Par contre, quand on est habillé comme un clodo, ça, oui, tu peux faire une remarque. Hein, genre, tu t'es pas lavé, t'es habillé comme un clodo. Oui. Là, on te fait une remarque. Mais faire une remarque parce que t'es trop bien habillé, je dis, ça, c'est de la jalousie mal placée. Je dis, laisse tomber. Je dis, ça veut dire que, justement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, mais je dis, par contre, c'est des remarques qui sont complètement cons. Voilà, je dis, personne n'a jamais été discriminé parce qu'il était trop bien habillé. Bon, ben jusqu'à mon anecdote que j'ai terminée. Donc, pour revenir à cette anecdote, donc il me dit, voilà, t'es trop sûr de toi, et donc du coup, comme t'es trop sûr de toi, du coup, tu peux paraître comme arrogant. Je dis, d'accord. Donc voilà, la personne, je lui dis, donc en fait, donc vous êtes content de ce que je fais professionnellement, et je lui dis, c'est vrai que professionnellement, ben, quand on est bon, normalement, voilà, c'est pas pour me la raconter, mais quand on est plutôt bon dans ce qu'on fait, il y en a plein de gens bons, et très bons artisans, ils sont contents de faire ce qu'ils font, donc voilà, on a une certaine forme de posture, donc on est un peu sûr de soi. Voilà, donc je lui dis, donc effectivement, voilà, je rappelle, je lui dis, effectivement, c'est vrai que quand j'ai produit des émissions télé, j'aurais dû être moins sûr de moi, en fait, parce que ça m'aurait aidé à les produire, ces putains d'émissions. D'être trop moins sûr de moi. Donc parce que c'est un homme, hein, voilà, qui me dit ça, il me dit, t'es trop sûr. Alors moi, déjà, je le regarde, je lui dis, c'est le monde à l'envers, quand même. Je lui dis, tu fous de ma gueule. Je lui dis, voilà, techniquement, j'étais en train de me dire que, en fait, je suis trop professionnel. Voilà, je suis trop professionnel. Donc du coup, ça plaît pas à certains. Voilà, donc on va y venir, hein, sur la fragilité et la morosité ambiante, et j'ai presque envie de rajouter la médiocrité aussi, hein, qui caractérise de plus en plus ceux qui nous entourent, ceux et celles qui nous entourent, hein, parce qu'il y en aura pour tout le monde. Donc effectivement, voilà, bon, si je pouvais me dire ça, pourquoi pas, on pourrait s'en arrêter là, et puis continue. Voilà, il me fait, parce que tu sais, quand même, voilà, je vais te le dire, je dis, ta posture, tout ça, il me dit, voilà, là, ce que tu représentes, il dit, tu représentes le quadra célibataire, sûr de lui, qui est dans la séduction. Et là, il me fait une petite explication qui m'a plu, parce que je pense qu'il a jamais écouté mon podcast. Et il me dit, je sais pas si t'es au courant, mais tu sais, la société évolue, et traduction, des gens comme toi, en fait, ben, ils dérangent. Parce qu'il faut traduire un petit peu entre les lignes. Et là, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui dis, en fait, je vais t'expliquer un truc. Je lui dis, je vais t'expliquer ce qui est. Voilà. Je dis, là, dans un rendez-vous professionnel, je vais t'expliquer le truc. Et je lui dis, si j'avais été une femme et que tu m'avais fait une remarque, parce que c'est ce que tu es en train de faire, sur ma tenue, sur ce que je représente, sur la personne que je suis, je lui dis, dans les 2 minutes qui suivent, je t'attaque pour harcèlement, discrimination, je te fous au prud'homme, je lui dis, tu perds tout. Je lui dis, mais parce que je suis un homme et qu'on est dans une société. Aujourd'hui, parce qu'on va le dire, hein, flingué par le néo-féminisme, je peux me faire attaquer sur ma posture, je peux me faire attaquer sur ce que je représente, je me fais attaquer sur tout. Et je pourrais même, parce que ça, c'est aussi les choses qui plaisent aujourd'hui à tout le communautarisme et au non-genre, je suis attaqué sur mon genre aussi. Donc en fait, j'ai fait une réunion où je me suis fait allumer sur tout ce que j'étais, ce que je représentais. Donc c'est-à-dire que... C'est ce que je lui ai dit aussi en suivant. Je lui ai dit, mais en fait, c'est quoi? Il faudrait quoi, en fait? Que je me laisse pousser le bide? Que je me laisse pousser à la calvitie, que je vienne en jogging et que je chiale tous les 4 matins et que je ferme ma gueule? Je lui ai dit, c'est comme ça que ça doit se passer, en fait. Et donc, du coup, je lui ai dit, bah, maintenant que tu m'as dit ça, c'est vrai que maintenant, je vais prendre quelques minutes de réflexion, même quelques secondes. Et effectivement, je peux te dire une chose, c'est que par rapport à ce que tu viens de me dire, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que je vais opérer comme changement? Eh ben, rien. Tu sais quoi? Rien. Et je me demande même si je vais pas rajouter plus de choses. Je me le demande. Parce que c'est, là, je lui ai dit, j'aimerais. Parce que c'est vrai que j'ai pas encore ajouté un petit peu des bretelles ou je me demandais si la montre à gousset, ça pourrait être sympa en termes de style. Je me demande si je vais pas le faire, tiens. Et puis tiens, je me demande si je vais pas faire ça, en fait. Voilà. Donc je l'ai remercié, je lui ai dit merci. Tu ne me fais que me conforter sur la médiocrité, en fait, voilà, aujourd'hui, qui contamine tous les pans, en fait, à tous les niveaux, en fait. Donc voilà, et on en est à 3, voilà, une évolution sur 3 ans, donc 3 anecdotes, donc ça veut dire qu'on est sur une forme de récurrence. Donc, j'aurais pu me dire, oh là là, peut-être qu'il faudrait que je ferme ma gueule, peut-être qu'il faudrait que je fasse profil bas, peut-être qu'il faudrait. Mais au final, admettons, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, au final, dans la vie, hein, parce que c'est comme ça. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Hein. Je veux dire, moi, je ne plais pas à certaines personnes, comme vous ne plaisez pas à d'autres personnes. Donc c'est, je veux dire, bon, maintenant, si vous ne plaisez pas à la majorité des personnes, bon, il faudra se poser la question. Aussi, mais effectivement, j'ai quand même, je bosse dans plein d'endroits différents. Il n'y a qu'à cet endroit précis, on m'a fait cette remarque. Parce que je sais que dans ce département-là, il y a des problèmes. Voilà, il y a un problème global. Et ce problème, c'est quoi ? C'est qu'on est, c'est qu'il est, c'est que ce département, il est évacué par le wokisme. Voilà, c'est tout. Donc je sais. Mais effectivement, j'aurais pu courber les chines. Et le problème aujourd'hui, c'est que non. Voilà. Donc c'est pour ça que ce sujet sur la fragilité, à un moment donné, on va y venir, hein, parce que je pose les bases, est intéressant dans cette volonté d'arpenter le chemin et de se heurter aussi des fois au réalisme et de se prendre aussi des obstacles. C'est que moi je sais pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Et moi je sais pourquoi il faut être comme ça aujourd'hui. Voilà. Parce que la vie, c'est pas faire ouin ouin tout le temps. Parce que faire ouin ouin, ça te permet pas d'être heureux, faire ouin ouin. Ça te permet pas de gagner de l'argent. Ça te permet pas, on va dire, de te développer professionnellement et personnellement. Ouin ouin, ça marche pas. Donc moi, on me demanderait de faire ouin ouin. Et voilà. Mais dans cet exemple-là, voilà, que j'ai eu il y a de cela un peu plus d'une semaine, ça me conforte que ça va pas quand même. Voilà, que ça va pas. Qu'on garde en tête. Voilà, gardez en tête que quand la France est envahie, alors je vais prendre cet exemple, hein, quand la France est envahie par les Allemands, enfin au moins quand ils se font la guerre, et quand on est envahi, c'est plié en un peu plus d'une semaine à peu près. Voilà, la France, en un peu plus d'une semaine, elle est pliée par les Allemands. Voilà, voilà, c'est un... Moi, j'ai envie de vous dire que l'époque de cette époque-là, voilà, qui était celle de l'occupation, cette époque qui était celle de la Seconde Guerre mondiale, des prémices, voilà. C'était pas la société qu'on a aujourd'hui, voilà. Donc c'était peut-être moins fragile de manière globale, mais on s'est fait plier en un peu plus d'une semaine. Là, demain, voilà, je le souhaite pas, hein, mais demain, Poutine, il décide de... D'ailleurs, moi, je serais lui, je le ferais. Hein. Parce que je pense que c'est plié en une journée. Je pense que la Russie plie la France en une journée. Voilà. Mais vraiment, s'ils font la même chose que les Allemands, donc c'est-à-dire arriver avec l'équivalent du Blitzkrieg, voilà. En une journée, je pense qu'ils l'ont plié. Ils attaquent différents endroits. Quand je vois là l'état actuel des choses, je me dis, on est dans la merde. On est dans la merde. Parce que si ces gens... que j'ai en entretien qui sont des hommes déconstruits, hein, parce que c'est ça, hein, voilà. Donc là on est, parce que moi j'aime bien la déconstruction, parce qu'on l'a employé aujourd'hui, on l'emploie pas dans le bon sens, à mauvais escient. C'est-à-dire que déconstruire quelque chose, c'est-à-dire c'est démonter une idée, voilà, pour l'expliquer. C'est pas pour le plaisir de la démonter, en fait, et de la remonter à l'envers. Voyez, prenez toujours cet exemple de la déconstruction. Moi petit, j'adorais jouer au Lego. Donc les Lego, t'achètes une boîte de Lego qui soit dans une thématique, par exemple, Je sais pas, bon, une thématique. Alors, il n'y avait pas encore dans les Lego à l'époque toutes les thématiques Harry Potter, Star Wars, etc. T'achetais des Lego, c'était un village ou peu importe. Donc voilà, donc t'avais quand même un sens de montage en fait du Lego. Alors, après, tu pouvais le démonter et faire autre chose avec, mais souvent ce que tu fabriquais avec c'était bancal. Gardez cette image. Donc, l'homme déconstruit d'aujourd'hui, c'est pas un truc qui est déconstruit pour l'expliquer, c'est quelque chose qui est déconstruit, reconstruit, qui est bancal. Voilà. Donc, effectivement. À l'heure d'aujourd'hui, voilà, donc oui, d'ailleurs, c'est une mauvaise expression à l'heure d'aujourd'hui, ça veut rien dire. Donc, la Russie débarque, c'est plié en plus d'une journée parce que ce seraient ces gens déconstruits, ils seraient capables de dire ah ben non, on va pas faire la guerre, ouin ouin, tout ça. Enfin voilà, je pense qu'il y en a pas un seul ou très peu qui aille défendre son foyer, si vous voyez ce que je veux dire. Je dis pas la patrie, parce que là, c'est pas un podcast nationaliste, et puis je m'en tamponne à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que défendre son foyer et tout ça, la veuve et l'orphelin, c'est pas les déconstruits et tous les autres qui vont aller le défendre. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, en tout cas, si j'étais russe, limite, c'est même pas l'Ukraine que j'aurais attaqué, c'est la France. Voilà, c'est voilà. Parce que l'Ukraine, par contre, là-bas, eux, ils lâchent rien, en fait. Voilà. Donc, voilà, petite parenthèse géopolitique refermée qui n'engage que moi, c'était pour... Donc, voilà. Donc, alors, pourquoi ces anecdotes vont dans la fragilité? Parce que, à un moment donné, on va, moi, dans le contexte que j'ai expérimenté, on va me reprocher une certaine type de posture qui demande un peu d'exigence dans les projets que je mène, en fait. Que ça soit dans l'enseignement, que ça soit... Moi, je me mets une exigence pour que le truc, il ait de la gueule quand je fabrique quelque chose dans le digital. L'idée, et c'est ce que j'arrête pas de dire aussi en cours, moi, le but, c'est quand je vous apprends, par exemple, la prise de vue ou le montage, c'est pas de faire de la merde de TikToker ou TikTokeuse, bordel. J'aurais dit, est-ce que vous savez qui sont ces gens-là? Et souvent, voilà. Moi, je déconstruis dans l'autre sens. D'où ils viennent? Ce que vous consommez, là, les YouTubeurs, YouTubeuses, TikTokers, TikTokeuses. D'où ils viennent? Et là, ils me disent, ah, télé-réalité influenceur. Très bien. Et je lui dis, et c'est quoi leurs skills? Alors, souvent, on me dit les soft skills. Je dis, on s'en branle, les soft skills. C'est quoi leurs skills? C'est quoi leurs compétences? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, bon, on sait pas. Oui, les compétences, c'est quoi? Tatouage, muscu, seins siliconés, lèvres siliconées. Voilà ce que c'est leur compétence. Et donc, du coup, vous voudriez, en fait, qu'en termes d'exigence, on se calque sur ces gens-là. Non. D'accord? Ces gens-là sont des barbares qui ont pris... Donc, voilà, on fait toujours référence au livre Les Barbares. Donc, ces gens-là sont des barbares qui ont pris... parce que c'est le principe des barbares, quelque chose de complexe, et qu'ils l'ont simplifié à outrance pour n'en garder que la vulgarité du procédé. Voilà. Donc, effectivement, moi, ma posture, elle est de lutter contre la médiocrité. Voilà, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez apprendre à tourner, à monter comme du TikTok, mais faites du TikTok plus. Utilisez cette vulgarité et essayez de l'amener autre part, en fait. Voilà. Donc, quand, par exemple, un film cinéma... Voilà, prenons l'exemple du cinéma. Quand un film cinéma utilise certains procédés filmiques qui sont des smartphones ou qui sont des GoPro, ils l'utilisent à bon escient et ils essayent de le tendre vers quelque chose qui ressemble à de la narration cinématographique. Mais à aucun moment, ils ultra-cut. Vous voyez pas, je sais pas, si vous allez voir le dernier John Wick, vous voyez pas Keanu Reeves, alors bon, il parle pas beaucoup, mais peu importe, qui est en train de parler face caméra et qui est coupé toutes les deux secondes plan sur plan. Ben non. Voilà, bien sûr que non, parce que ça, c'est pas la narration. Donc voilà, effectivement, pourquoi la fragilité, la morosité ambiante, parce que c'est lié, hein, est un problème aujourd'hui? Parce que c'est la politique actuelle. Parce qu'aujourd'hui, il est de bon ton d'être un mouton et d'aller dans une direction et de fermer sa gueule et de courber les chines et de s'adapter à la doxa qui n'est pas de chez nous en plus, bordel. Donc c'est-à-dire, ça j'ai déjà expliqué, toutes ces minorités qu'on entend et qui gueulent, voilà, les minorités, bonjour, hashtag, on est des tables basses, etc. Tout ça, c'est pas dans le code, c'est pas dans l'ADN français, ça. C'est pas dans l'ADN européen, ça. C'est quelque chose qui s'est exporté des États-Unis. Et n'oubliez pas que le cheval de Troie étant Internet, les réseaux sociaux, smartphones, etc. Donc tout ça est en train... voilà, de contaminer la structure à tous les niveaux, et aujourd'hui, tout le monde chiale, voilà, donc aujourd'hui, quand il y a un truc qui te plaît pas, faut l'annuler, parce qu'en fait, finalement, ce qu'il faut comprendre, pourquoi je dis que, dans cet entretien que j'ai eu, Au final, on est dans le wokistan parce qu'on a tenté de me cancel. On a tenté de me dire, voilà, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu penses, la manière dont tu réfléchis, eh ben, tu sais, la société, elle est en train de changer, donc il ne faut pas que tu fasses comme ça. Voilà. Et je suis désolé de le dire, qui faisait ça? Qui faisait ça? Hein, on va le dire, les dictateurs et le Troisième Reich. Voilà, donc c'est-à-dire, on n'aime pas ce livre, on le brûle. On n'aime pas ces gens-là, on les met quelque part dans un camp. Voilà, et on les extermine. Alors, c'est peut-être extrême ce que je vous dis, mais on n'est pas loin. Voilà, j'ai pas dit qu'on exterminait les gens qui n'étaient pas woke, je dis juste qu'aujourd'hui, cette société-là, quand il y a quelque chose qui est soit à l'encontre ou qui essaye, à un moment donné, parce qu'on est dans un débat d'idées, parce que c'est ça, moi je suis pas en train de vous dire, soyez tous comme moi. Je suis pas en train de vous dire ça. Je vais pas dire, les gars, mettez tous des cravates, mettez tous des pinces à cravate, écoutez tout tel type de musique, faites ça. Je ne vous dis pas ça. Moi, je vous raconte mon vécu, je mets des choses en place. Ça peut être source d'inspiration, mais on n'est pas des clones. Voilà. On est des individus, si vous voyez ce que je veux dire. Individus. Et à mettre en opposition avec ce communautarisme d'appartenance à des teams. Team vegan, team table basse, tous ces trucs-là. Voilà. Donc, team platiste. Ouais, j'en ai déjà parlé des platistes, hein, ceux qui croient que la Terre est plate. Donc, tout le monde a un besoin d'appartenance. Et donc, et cette connerie-là, en fait, de classification et d'appartenance, ça, c'est nord-américain. Mais sauf qu'ici, on n'est pas en Amérique. Voilà. OK ? Donc, voilà. Donc, effectivement, on a tenté de me cancel. Voilà. Et sous couvert d'un manque, finalement, de fragilité. Voilà. Parce que la fragilité, c'est le manque de robustesse de quelqu'un. Voilà, j'en reviens sur les définitions. Caractère précaire, faible et instable. Voilà. Et donc, et justement, moi, on me dit que je suis trop sûr de moi. Voilà. Donc, vous comprenez un petit peu. Donc là, je touche du doigt, en fait, un phénomène. Voilà. Donc, et ce phénomène-là, voilà, donc moi, je vais le raccrocher avec d'autres choses, parce qu'il se constate à tous les niveaux. Donc, de toute façon, de toute manière, voilà, je vais boucler un petit peu sur le contexte professionnel. Donc, de toute manière, là, s'entrechoque plusieurs notions. Donc, c'est-à-dire que on a ces doctrines wokistes, voilà, qui envahissent notamment pas mal de milieux du digital, hein, parce que voilà, on va en parler aussi, hein, pareil. Hein. Allez, quitte à faire des saillies, à montrer que je suis en forme, allez, on va en sortir une autre pour la forme. Il y en a qui vont hurler de ce que je vais raconter, mais bon, écoutez, après, comme c'est un débat, et j'attends la suite, effectivement. Autre communautarisme, le développement durable, l'écologie, la planète. Voilà. Donc aujourd'hui, et ça c'est génial parce que je le vois, on a beaucoup d'entreprises du digital qu'il faut de l'éco-responsabilité, de l'énergie verte, donc il ne faut pas trop envoyer de mails pour faire ça, donc ils ont des badges et des choses qu'ils vont fièrement apposer sur leur structure, hein, sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Mais alors tout ça c'est de l'hypocrisie, parce que moi je le sais. Parce que comme ça, ça permet d'obtenir des financements et d'être l'entreprise la plus verte. Et des fois, j'ai envie de dire, mais putain, en fait, vous commencez à nous casser les couilles avec la planète, en fait. Voilà, je vous le dis, vous commencez à nous péter les couilles. Voilà. Et ça, de manière générale, en fait. Je n'en peux plus, moi. Donc, tous les jours, on va tous mourir, hein, avec la planète. Mais on va mourir de quoi, en fait? Alors, on va mourir de quoi? Dites-moi. Donc, on va mourir de quoi? Alors, déjà, donc oui, la pollution, oui, c'est très bien, mais ça, c'est du bon sens, en fait, tu vois, de pas jeter ta télévision, tu vois, ton écran de télé, d'éclater dans la rue, c'est du bon sens. C'est juste qu'avant, il y avait des teubés avec les sacs plastiques. Donc, effectivement, qu'on veuille pas vivre sur une planète de clodo, parce que c'est ça, en fait, moi, je suis d'accord, qu'on ne veuille pas vivre sur une planète de clodo, qu'on évite de balancer nos trucs de clodo dans l'océan pour pas tuer certaines espèces, d'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, tout le flambi qui est sorti, non mais je ne te rends pas compte, on pollue, ça c'est énergivore, tout ça n'envoie pas un mail parce que ça passe par des serveurs. Putain, mais arrêtez de casser les couilles. Vous savez pourquoi? Parce que je vais vous donner un fait, en fait, hein, qui est simple. Il y a 65 millions d'années, en fait, on a eu une cinquième extinction. Parce qu'il y a eu 5 extinctions, hein, dans l'histoire de la planète Terre. Voilà. Et dans cette extinction, voilà, il y a alors, l'une des, on va dire, des... L'une des explications les plus probables, parce qu'on ne sait pas forcément, mais celle qui tend vers la plus probable, c'est qu'il y a un putain de météorite qui s'est éclaté. Donc imaginez météorite qui s'est éclaté sur la Terre. Il a détruit l'atmosphère. Et il a détruit, et toutes les espèces vivantes à la surface ont été exterminées. hiver nucléaire, etc. Un bordel. Voilà, les seuls qui ont survécu, c'est certaines espèces qui étaient dans les profondeurs de l'océan. Voilà. Donc, et c'était la période, c'était il y a 65 millions d'années, donc Crétacé, voilà, donc la période du Crétacé, voilà, Crétacé tertiaire, pour préciser. Donc, et c'est la fin des dinosaures. Voilà, c'est la fin des dinosaures. On a éclaté la planète. Voilà. Et pour préciser, parce que j'ai sourcé, c'est 6 à 8 espèces sur 10 qui ont disparu. Donc c'est quasiment 90% de la population terrestre qui s'est fait éclater. Et ça, c'était des choses qui m'intéressaient quand j'étais petit. Voilà, je vous raconte un peu ma vie. Moi, j'étais fan de Jurassic Park. Je voulais être paléontologue. Voilà, à l'époque. Comme quoi, finalement, on en est loin. Voilà, pourquoi pas. Peut-être que je suis en train de faire la paléontologie, quelque part, des relations hommes-femmes aussi. Hein, ça, c'est peut-être ça qui est triste là-dedans. Donc voilà. Donc ça, c'est un météorite et pom, il a tout pété. Et vous, il voulait savoir quoi ? Oui, je vous dise quelque chose. Eh ben, on est là. Voilà, on est là. Donc, va m'expliquer qu'en fait, je fais telle action, là, voilà, quand j'utilise un peu trop l'eau du robinet, machin, que, on va dire, mis bout à bout, sur les milliards d'êtres humains sur la planète, mis bout à bout, en fait, c'est l'équivalent de la météorite qui a anéanti, en fait, parce que c'est ça qui t'explique, en fait, hein, dans toute leur théorie, là. C'est ça qu'ils disent, c'est qu'on va tous mourir, c'est la fin, voilà. Et puis, pareil, hein, à chaque fois, hein, quand on regarde l'été dernier, là, oh là là, c'était l'été le plus chaud, maintenant on va prendre 2 degrés par an, etc. Si on regarde un petit peu dans l'histoire, en fait, qui est documentée, voilà, l'histoire vécue dans les journaux, combien de fois on a vu au début du siècle, des hivers très rudes, des étés très chauds, etc., machin. Voilà, c'est toujours arrivé. Et voilà, ça a toujours été là. Donc, c'est quand même... donc voilà, moi, je suis très sceptique, quand même, sur le fait qu'on prenne 1 ou 2 degrés dans les 10, 15 ans, 20 ans, 50 ans à venir, pourquoi pas, voilà. Mais je suis quand même très sceptique sur toute la doxa qui est liée, parce que c'est un business aussi, voilà, et puis ça me gonfle, voilà, ça me saoule, voilà. Parce que c'est aussi ça la fragilité aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'une tristesse, quoi. Oh là là, bois pas trop d'eau du robinet, on va tous mourir. On fume pas des clopes, on va tous mourir. Oh, il faut pas manger trop de viande, parce qu'on va tous mourir. Non mais sans déconner. Ne sois pas trop sûr de toi, parce qu'on va tous mourir. Donc, mais putain, mais merde. Non, non, non et non. Voilà. Et oui, et pourquoi je me permets de dire non ? Parce que, contrairement à vous, enfin quand je vote, enfin je suis... Je l'ai déjà dit, je suis proactif, je suis déjà en tant qu'indépendant, je paye des charges, donc je contribue aussi, on va dire, à la flo. Alors je cherche mon terme, c'est-à-dire, j'allais dire à la floraison, c'est pas. Bon, on va dire au fait que ce sentiment de fragilité, ben, soit un service constant, donc voilà. Donc c'est-à-dire que ouais, ça commence à me gonfler. Et effectivement, du fait que je suis un actif et que je participe à cette société, voilà, on participe tous et toutes à cette société, j'ai le droit de dire, allez vous faire foutre. Voilà, vous me faites chier avec votre truc. Arrêtez de me casser les couilles. Voilà, j'ai le droit de dire ça. Parce que déjà, d'une, je paye pour, et de deux, je constate, et quand on raconte de la merde, ça commence à me saouler. Donc voilà. Donc c'est un enfer. Voilà. Donc voilà. Donc quand on me dit, oh, mais tu comprends, la société, change. Ouais, mais d'accord, mais si la société fait de la merde, en fait, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de lui dire ? Voilà. Et certains me diront, oh, mais qui es-tu pour ? Mais j'ai l'impression que je suis pas le seul. Voilà. Aussi, à le constater, que c'est la merde. Voilà. Donc, mais de toute façon, c'est même si on prend actuellement, là, prenons par exemple l'histoire des retraites, c'est une blague aussi. T'as, les gens, ils sont dans la rue, oh, retraite. Mais déjà, posez-vous une question, les amis. Déjà, est-ce que vous aurez une retraite ? Moi, je crois pas, hein, parce que ça, c'est la blague aussi. Hein. Là, on recule l'échéance, mais à un moment donné, moi, je crois pas que moi, enfin, moi, j'avais déjà dit que je la prendrais pas, mais quoi qu'il arrive, admettons, je veuille la prendre, je pense pas que je l'aurai, j'y ai droit, je pense pas que je l'aurai, en fait. Je pense pas que ça existera encore à ce moment-là. Mais pareil, je constate des choses, et j'arrêterai pas de leur dire, ça fait plusieurs fois, ça fait plusieurs épisodes. La médiocrité aussi de l'acte de la manifestation. Arrêtez de manifester comme ça. Je lis plein d'articles. Oh, ils nous écoutent pas. Mais bien sûr qu'ils vous écoutent pas. Mais c'est normal qu'ils vous écoutent pas. Vous êtes là à agiter des trucs le week-end, en milieu de semaine, là. Mais ils rigolent. Mais les oligarques, là, ils sont en haut, mais ils se marrent. Voilà. Mais bien sûr qu'ils se marrent. C'est quoi l'acte le plus fou que vous avez fait, là? C'est quoi? Être 10 000 au lieu... Enfin, être 10 000 au lieu de 5 000, la fois d'après 15 000, et donc... Et vous croyez qu'il a peur? Vous croyez que le pouvoir en haut, ça leur fait peur, ça? Ils en ont rien à branler. La preuve, ils continuent. Par contre, demain, je vous le dis, là, je vais prendre un exemple, là, que moi, je touche voilà, dans mon quotidien, qui est celui de mon enfant, qui, un week-end sur deux, doit prendre la SNCF. Ouais, un week-end sur deux, je m'adresse, s'il y a des gens qui travaillent à la SNCF, vous cassez les couilles, en fait. Ouais, je vous le dis, vous cassez les couilles. Pourquoi dans ce cas-là, les billets ne sont pas gratuits? Pourquoi vous ne faites pas monter les gens gratuitement, là? Vous allez voir, là, le chiffre avant la fin de la journée, là. Là, par contre, il va se passer un truc, je pense. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, là, ils vont comprendre. Par contre, là, en fait, vous cassez les couilles, mais juste à nous, en fait. Voilà. Alors, quelque part, on est d'accord avec vous, hein, ça craint, ça fait chier, voilà. Mais en fait, votre mode de fonctionnement, il nous fait chier à nous, pas à ceux en haut, en fait. Ils en ont rien à branler, en fait. Voilà. Donc, distribue l'essence gratuitement. Voilà. Ouvre les autoroutes. Voilà, par exemple. Va à l'Élysée, là. Vas-y, mais pour de vrai, en fait. Tu vas là, les 15 000, tu pètes le portail de l'Élysée, là. Et tu vas le chercher, et lui ou les autres, et tu leur rappelles ce que c'était 1789. Pendant quelques minutes. Tu vas voir à un moment donné s'il n'y a pas. Moi, à mon avis, c'est une idée, hein, comme une autre. Hein. Certains vont me taxer d'anarchiste, mais c'est une idée comme une autre. À mon avis, teste ça sur une journée, ça ne te prendra pas plus d'une journée. Je pense que tu n'as pas besoin de faire plusieurs journées de grève. Je pense que tu fais ça, là. Tu fous, tu fais comme... Voilà, tu ouvres les livres d'histoire, tu regardes comment ça s'est passé. Voilà. Et tu fous le feu, là-bas. Et tu vas voir s'ils ne vont pas t'écouter. Sauf que le problème, là-dedans, et je vais vous le dire, pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Mais parce que, comme on est désormais une société d'assistés, les gens gueulent, mais ils n'ont rien à proposer derrière. Et oui, parce que si tu fous le feu, admettons, t'y vas, tu fous le feu. Voilà. Ou tu fais comme en 1789, tu guillotines. Admettons, tu fais ça. Parce que c'est pas un acte. Tu peux pas refaire un retour en arrière hein, quand tu utilises la guillotine. Quand tu fais ça, bon, ouais, vous avez compris. Derrière, t'as quelque chose à proposer. Il y a un gouvernement qui se crée. Il y a quelque chose. Il y a des idées. Il y a des gens. Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'idées, en fait. Il n'y a pas de réflexion. Parce qu'on est dans l'assistanat. Et les gens ne souffrent pas assez, parce que c'est, je l'ai dit la dernière fois, ne souffrent pas assez pour qu'on puisse avoir des idées et qu'on puisse dire stop. Voilà, donc ça c'était un exemple, j'ai fait une petite parenthèse sur l'actualité. Donc voilà pourquoi en haut ils rigolent et pourquoi vous ça ne marche pas et pourquoi ça ne changera pas. Et pourquoi nous on sera toujours emmerdés par des grèves successives et que c'est nous qu'on fait chier. C'est toujours la même histoire, voilà. Donc, l'essence, par exemple, ça, c'était un truc qui m'a bien cassé les couilles, parce que voilà, pendant que vous nous bloquez la raffinerie, ben moi, je peux pas bosser, voilà. Et crois-moi que quelque part, si moi, je m'énerve, c'est à toi que je pète la gueule, et aussi au gouvernement, les deux, en fait, voilà. Donc, voilà, mais d'abord toi, en fait, parce que tu m'as bien cassé les couilles. Voilà, parce que moi, en fait, quand je travaille, c'est pour bouffer à la fin du mois, en fait. Voilà. Donc, et tu m'en empêches. Effectivement, sur ces actions, c'est nous que ça a emmerdé. Eux, ils s'en foutent, en fait. Ils ont des réserves, hein, tu vois. Je veux dire, ils s'en foutent. Ça ne les atteint pas, en fait. Donc, voilà. Donc, la seule chose qui les atteint, c'est le pognon. Voilà. Donc, voilà, c'est une idée, voilà, je vous la soumets. Puis j'arrêterai après ces questions sociétaires. Voilà. Tu veux que ton action amène déjà et un projet derrière de remplacement, voilà, et derrière, coupe les vannes en fait, coupe les vannes du pognon, c'est comme ça que tu les auras. C'est une société capitaliste, hein, c'est comme ça que ça marche. Donc, cette fragilité, ben, on la retrouve un petit peu à tous les niveaux, comme je viens de dire, hein. Niveau sociétaire, niveau professionnel, et aussi dans les relations hommes-femmes. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui fait écho aussi quelque part à ce que j'avais déjà traité dans mon épisode qui était sur le volume 2 en fait, le monde d'après, sur les sites de rencontres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, mais là je vais y consacrer quelques minutes dans cet épisode-là. C'est vrai que mes congénères me fatiguent et me désolent et m'attristent. Et attristent aussi les femmes célibataires d'aujourd'hui, en fait. C'est d'une tristesse. Vous êtes d'une tristesse, messieurs. Voilà, donc je vais citer plein de cas de figure, parce que j'ai l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on pourrait généraliser sur cette fragilité, messieurs? Voilà, parce que là, on a parlé de la fragilité de la société, mais peut-être que le vrai sujet aussi, c'est le manque de testo, le manque d'initiative, une fragilité chez le public masculin de manière générale, en fait. Ouais, on n'a pas de... Ouais, je fais écho à ce qu'il y a dans Fight Club, en fait. Parce que regardez Fight Club, c'est exactement ce qui se passe, en fait. On a, voilà, comme le dit Tyler Durden, hein, tout ce que dit Tyler Durden dans le film, hein, c'est le personnage incarné par Brad Pitt, est vérifiable aujourd'hui, voilà. Donc, alors, je vais pas faire la citation mot pour mot, mais Kaidi, qu'on n'a pas de grande cause, on n'a pas de grande guerre, qu'on est les enfants oubliés de Dieu, en fait, mais c'est exactement... Moi, j'adore cette phrase où il le dit aussi à Edward Norton, dedans. Il lui dit « Il est probable que Dieu ne t'aime pas. » Voilà. Et c'est, j'adore ce petit bout de phrase de gens qui adorent Dieu, mais est-ce que Dieu, il les aime, en fait? Voilà. Mais il est probable qu'il ne t'aime pas, en fait. Voilà, on est les enfants non désirés de Dieu, en fait. Mais c'est ça. Il n'y a pas de grande cause. Ou quand il parle de... C'est exactement ça. On est dans une crise, aujourd'hui, du masculin qui est vérifiable, en fait, du côté féminin. C'est-à-dire que... Enfin, moi, j'ai de multiples amis IES... qui sont célibataires, je discute avec elles de leur date, de leur rencontre, même IRL, etc. C'est d'une tristesse. Et moi, je suis un homme, je suis obligé de le dire. Je constate ces trucs-là. Alors, bien entendu, attention, moi aussi, je commets des erreurs, hein, quand j'aborde, etc. Bien entendu, des fois, j'ai des phrases malheureuses, mais c'est pas au niveau de ce qu'elles me racontent. Voilà, c'est pas au niveau de ce qu'elles me racontent. Donc, cette fragilité, c'est quoi ? C'est-à-dire que... alors, prenons l'exemple, on va rabattre les cartes toujours, prenons l'exemple du site de rencontre. Donc les gars, donc si vous m'écoutez, alors déjà, si vous m'écoutez, ça veut dire que normalement, vous êtes câblé correctement, vous le savez déjà, mais au cas où vous ne le sauriez pas, vous êtes en surnombre, quel que soit le site de rencontre, voilà, l'offre est inférieure à la demande, en fait, quelque part. Vous êtes en surnombre. Mais c'est genre, c'est une femme pour, allez, pour 10, 15, 20 gars à peu près. Voilà, c'est à peu près ça. Donc du coup, elles sont submergées. Voilà, elles sont submergées. Et donc du coup, comme elles sont submergées, et qu'il y a... Parce que le fait d'utiliser ces plateformes crée un déséquilibre. C'est-à-dire que la moindre meuf, allez, la moindre meuf un peu moyenne qui... une fois un peu maquillée, filtrée, et sur son Insta, balance ses photos, va être potentiellement sollicitée par de multiples mecs. Donc sa valeur sur le marché à elle, par les applis, a augmenté. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a un déséquilibre. Donc les sites de rencontre participent au déséquilibre du marché. Donc c'est-à-dire que, voilà, alors attention sur ce que je vais dire aussi, mais c'est un exemple que moi j'ai pu expérimenter sur ces sites. Et c'est pour ça que, effectivement, si je peux en utiliser, c'est avec parcimonie, et pour ce que c'est, je suis désolé de le dire, c'est-à-dire le niveau zéro, si à un moment donné, vraiment, j'ai besoin d'un one-night stand, ben, j'utiliserai ça, en fait. Voilà. Et c'est malheureux, hein, ce que je vais dire, hein. Mais limite, c'est ça, quoi. Donc, c'est-à-dire que moi, il est hors de question, quelque part, parce que c'est ça qu'il faut voir, hein, la théorie des capitaux sociaux, capital social, culturel, financier, ça n'apparaît pas, hein, sur un site de rencontre, hein, quelque part. Et je vais me faire recaler par Brigitte la coiffeuse, hein. Tu vois ce que je veux dire, que c'est pas aligné deux mots qui va te faire du quacoubé et des trucs comme ça. C'est ça, en fait, le truc. C'est ça que vous êtes en train de me vendre. C'est ça, en fait, le futur des relations hommes-femmes. Mais allez bien vous faire foutre. Je dis, et vous, messieurs, vous participez à ce truc-là. C'est-à-dire qu'en les sollicitant, en envoyant des likes, là, en les relançant, et en plus en vous énervant, moi j'ai des amis qui utilisent vraiment les sites de rencontre pour rencontrer vraiment quelqu'un et qui font la démarche de rencontrer, et vous, bande de débiles, qui a aimé 3 ou 4 heures, parce que soit elle travaille, soit parce qu'elle est sollicitée par d'autres personnes, parce que c'est ça aussi, hein, elles sont sollicitées, vous les insultez parce qu'elles vous ont pas répondu. Mais vous êtes fous, quoi. Mais enfin, vous êtes taré ou quoi? Parce que en fait, une personne t'a parlé sur un site de rencontre, t'es en couple avec elle, c'est ça? Ça, vous avez vécu une grande histoire. Mais t'es fou, mec. Mais ça m'étonne même pas que tu sois sur un site de rencontre. Parce que d'ailleurs, parlons-en aussi. Elle est où la fragilité? C'est-à-dire que si, alors admettons, voilà, parce que j'ai exposé un truc. Si tu utilises le site de rencontre comme un moyen de dater en plus de la vraie vie et en étant conscient de ce que c'est. Bon, j'ai envie de te dire, normalement, c'est pas toi qui agis comme un débile sur ces sites-là. C'était pas toi dont je parle, en fait. Par contre, si tu utilises le site de rencontre pour vraiment rencontrer l'amour, là, va falloir qu'on en parle, mec. Explique-moi pourquoi. Va falloir que tu me sortes une vraie putain de raison. Va falloir que tu m'expliques qu'en fait, tu es chirurgien du cerveau et que tu travailles sur une journée de 24 heures, tu travailles 22 heures et que tu dors que 2 heures et en fait tous les jours. Et tu n'as jamais le temps en fait de rencontrer quelqu'un. Donc tu utilises un site de rencontre pendant ces 2 heures-là pour trouver quelqu'un. Ça, d'accord, je peux l'entendre. Par contre, tu as une vie sociale, tu travailles, tu as des interactions avec des gens. C'est là que ça se passe en fait. C'est là que tu cherches. Donc, être sur un site de rencontre pour rencontrer quelqu'un, c'est pour pallier dans ce cas-là. C'est parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, la fragilité, elle est là. C'est pour pallier à un manque de prise de risque du réel. Voilà. Donc, ne croyez pas, parce que ça, c'est la réalité. Et ça, j'en discutais avec une de mes meilleures amies. Ce qui, une interaction sur un site de rencontre, même plusieurs, même 10, même 100, ne remplacera jamais, jamais les prémices d'une rencontre dans la vraie vie. Une rencontre dans la vraie vie, c'est, ça demande, on va dire, un investissement, voilà, et ça demande de prendre des risques, c'est-à-dire d'aller parler à une inconnue, une ou un inconnu. Alors après, moi, je pars du principe que, alors là, bien entendu, les néo-féministes qui ne sont pas encore tombés à bras raccourcis sur cet épisode tomberont à ce moment-là. Moi, je pars du principe, et pareil, hein, je le redirai, venez pas me casser les couilles avec 50 ans de lutte à la con contre des millions d'années en fait, d'évolution qui restent les mêmes, en fait. Hein, voilà. À un moment donné, ça a toujours fonctionné comme ça, c'est les codes de la séduction. C'est-à-dire, et je suis pas en train de vous sortir des merdes de pick-up artistes de mes couilles du début des années 2000, je vous dis juste qu'à un moment donné, la valeur d'un homme, voilà, aux yeux d'une femme, alors vous me direz, ah mais non, mais c'est pas toutes les femmes, aujourd'hui on veut des mecs sensibles, ouais, foutez-vous de ma gueule, voilà, vous pouvez me la raconter comme vous voulez, je connais toujours le fin mot de l'histoire, toujours. Quelque part, la valeur d'un homme aujourd'hui aux yeux d'une femme, dans les prémices, c'est d'avoir au moins le courage de venir lui parler. Et quand je dis de venir lui parler, c'est pas de la drague de rue, qu'on comprenne bien. Voilà, qu'on comprenne bien. Donc, c'est d'abord lire les signaux d'intérêt, fin, et auquel cas, si vraiment signaux d'intérêt il y a, et c'est d'aller creuser poliment la question, et d'aborder poliment la personne avec un minimum de tact, de charme, de séduction et d'intelligence sociale. Voilà. Donc ça veut dire que si vous, messieurs, vous passez par les sites de rencontre, ça veut dire que vous ne faites pas ça, en fait. Et vous croyez que ce que je viens de décrire, c'est l'équivalent d'envoyer un message sur un site de rencontre. Donc ne vous étonnez pas de tomber sur des meufs flinguées, ou des profils flingués, voilà, ou que ça soit pas ouf, cette relation-là, parce que un SMS, un message, ne remplace pas une paire de couilles, en fait, dans la vraie vie. Voilà, comprenez ? Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc je préfère, je vous donne mon exemple, hein, parce qu'on parle d'arpenter le chemin, je préfère, mais de loin, parce que même si j'ai de l'expérience, un minimum de style, de la tchatche, les capitaux, etc., tout ce que vous voulez, voilà, je préfère de loin me prendre, allez, tous les week-ends, 4 ou 5 râteaux, mais avoir vécu, avoir quelque chose à raconter. Alors râteaux, bah, râteaux, oui, non, c'est pas un râteau, mais les incels aiment bien appeler ça des râteaux, donc moi j'appelle ça une tentative, voilà, mais je préfère 100 fois décoder des signes d'intérêt, démarrer une discussion, voir où ça nous amène, et tenter quelque chose et ne rien obtenir, que de discuter mollement et platement, sur le simulacre de l'interaction humaine, qui est le smartphone, parce que c'est un simulacre de l'interaction, et déboucher sur un truc plat, quoi. Voilà, enfin. C'est l'équivalent, voilà, faut garder cette image, c'est aller dans un zoo, voilà, et là tous les défenseurs des animaux, faut pas aller dans les zoos, ferme ta gueule, va dans un zoo, et observe le lion en cage. Le lion, c'est un prédateur, voilà. Donc le lion en cage, donc tous les lions en cage que vous verrez, ils dépérissent, parce qu'on a mis un prédateur en cage, voilà. Et c'est ce qui, et c'est moi c'est ce qui se passe. Alors je dis pas, alors, oui, les gens vont dire, ah mais tu te considères finalement comme un prédateur vis-à-vis des femmes. Bon, les QI élaborés auront compris, voilà, ce que je veux dire. Mais voilà, moi je dépéris sur un site de rencontre. Et c'est un contrôle de l'interaction, déjà, qui est complètement naze, parce que ça enlève tout le charme de la séduction, donc c'est la séduction de merde, voilà. Et en plus de ça, c'est participer à ce que le néo-capitalisme se fasse de l'argent sur ce qui se passe dans ta chambre à coucher. Parce que c'est ça, en fait, hein. Parce que, quelque part, et c'est pour ça que ça me fait toujours rire de voir des profils de meufs sur des sites de rencontres et qui se mettent féministes. Ben, si t'es féministe, ne va pas sur un site de rencontre. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est de la prostitution, en fait, mais déguisée. Sauf parce que toi, tu touches pas d'argent dans l'histoire. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, bah oui, hein, on va pas se mentir, hein, parce que vous aviez le même raisonnement sur « Ouais, non, mais de toute façon, les boîtes de nuit... » Parce que les boîtes de nuit, c'est pareil, en fait. Les boîtes de nuit, c'est quoi l'appât de la boîte de nuit ? C'est pas le son qui est passé. C'est les nanas. Donc, les mecs payent. Voilà. Donc, le site de rencontre, c'est pareil. Voilà. C'est vous êtes en photo sur une application, voilà, et les gens vous scrollent moyennant un abonnement. Appelez ça... Je sais pas, dites-moi ce que c'est si ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Voilà. Si ce n'est pas, à un moment donné, du travail de proxénète, ce truc. Je sais pas, hein. Dites-moi. Mais c'est à peu près ça, quand même. Non, mais tu comprends, c'est pour trouver l'amour. D'accord ? Pourquoi, dans ce cas-là, tu payes pas, alors ? Pourquoi toi, tu payes pas ? Voilà. Pourquoi toi, tu payerais pas le même prix que moi, en fait ? Ou sinon, pourquoi c'est pas gratuit pour tout le monde ? Si c'est pour trouver l'amour, si c'est à but non lucratif, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc c'est ça. Donc j'avais envie quand même de dérouler sur ce truc. Donc voilà, voilà pour les... donc voilà, donc c'est triste. Donc arrêtez de chercher la facilité, en fait, parce que c'est la facilité. Il n'y a aucun exemple, et voilà, et pareil, hein, ça c'est sociétaire. Hein. Salut à toi, jeune entrepreneur. Voilà, la question est vite répondue. Vous voyez ce truc là de merde là, le travail, les revenus passifs. Mais c'est de la merde. Est-ce que dans l'histoire du monde, vous avez entendu quelqu'un qui est devenu millionnaire comme ça ? Non, les seuls revenus passifs de gens millionnaires, c'est les gens qui étaient déjà millionnaires, qui ont hérité de leurs parents une fortune. Ils les ont placés en banque, s'ils ont été bons, ou dans la pierre, ou ailleurs. Et ils ont doublé, triplé, quadruplé leurs revenus. Mais à la base, ils avaient déjà, en fait. Voilà. Donc, gagner de l'argent sans rien faire. D'accord. Trouver une petite amie ou un petit ami charmant, intelligent, qui coche toutes les cases sans rien faire. Avoir un boulot enrichissant, etc., sans rien faire. Ça n'existe pas. D'accord. Ça n'existe pas. Voilà. Mais non. Voilà. Et aujourd'hui... on chiale. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, on chiale. Voilà. Ouin, je trouve pas. Elles veulent pas me parler sur les sites de rencontres. Je t'ai expliqué pourquoi elles te parlent pas, en fait. Voilà. Voilà. Tu viens de comprendre pourquoi elles te parlent pas. Soit elles sont trop sollicitées, soit c'est des bots, soit vous êtes 112 000. Voilà, mais elles te parlera pas. Ou soit il faut que tu fasses un travail sur tes photos aussi. Parce que ça, on n'a pas parlé de l'autre côté aussi. Admettons que ça soit ton mode, etc. Donc voilà. Donc, à un moment donné, non. Et c'est pour ça aussi, j'en reviens sur mon anecdote initiale, c'est pour ça que moi, quand j'entends qu'on me dit que je suis trop sûr de moi, etc., machin, non mais attends, ça voudrait dire quoi ? Non mais, si je ne fais pas ça, en fait, ça veut dire quoi ? Il faut que je chiale comme tout le monde, que je sois sur un site de rencontre, il faut que je sois dans la fragilité, je dis « Oh mon Dieu, putain, merde, fort, oh là là, putain, c'est la faute à tout le monde, il faudrait que je me déconstruise et que je me reconstruise comme mes Legos, mais à l'envers, en vrac, c'est ça l'avenir ? Non merci, en fait. » Non merci. Et pourquoi ? Pourquoi je sais que je suis quand même sur une bonne piste? Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai mis en place, voilà, je le dis, hein, depuis mon point de départ, ben, je récolte ses fruits. Hein. Là, c'est une anecdote que je vous ai donnée. Donc, les trois anecdotes que je vous ai données, ça ne m'arrive pas dans tous mes contrats. Ça, c'est minoritaire. Mais ça m'arrive quand même aujourd'hui. C'est pour ça que je tenais à le signaler sur ce sujet-là, que je traite sur la fragilité. Donc, tout ça, tout ce que j'ai mis en place me conforte dans le fait que j'ai... Là, si je fais le bilan depuis 2 ans, j'ai développé plein de nouvelles choses en termes d'activité. J'ai des projets, des objectifs, en fait, qui vont ailleurs. Donc, je suis cool, il y a une dynamique. Donc, sur cette posture physique, etc., sur les vêtements, etc., ça me distingue des autres, etc., c'est bénéfique, que ça soit dans les relations hommes-femmes, que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles, que ce soit à tous les niveaux, ça me distingue, ça me conforte. Et puis, quand j'en discute avec vous, mesdames, vous en avez marre, parce que ça, c'est un constat, parce que de plus en plus, j'entends... Non, mais attends, moi, je suis pas féministe, hein, je suis pas comme ces tarés. Donc, j'en entends de plus en plus qui en ont ras-le-bol de leur grande sœur, leur mère, parce que c'est ça, à peu près ça. C'est leur grande sœur ou leur mère ou les deux. Elles en ont marre parce qu'elles ont tué le game, en fait. Parce qu'elles sont en train de tuer le game. Et elles font une génération de mecs fragiles qui ne peuvent plus approcher pour des notions de consentement. Parce que moi, je vous parle pas de la drague de rue, des relous, et de tous ces gens-là, on sait très bien qui ils sont. Enfin, depuis toujours, ils sont là. Ça n'a pas bougé. Non, moi, je parle du mec plutôt bien câblé, etc., qui, aujourd'hui, est complètement émasculé de manière globale, en fait, soit par son ex, soit par la société, soit par le patron. Non, mais c'est un bordel, en fait. Voilà. Si ça n'a pas été par sa mère, dès le départ. Voilà. Et donc, du coup... Elles en ont ras-le-bol. Et moi, j'en entends souvent qui me disent « Mais non, on veut des mecs. Enfin, des bonhommes. » Moi, je sais ce que ça veut dire, des bonhommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait des trucs propres à lui, en fait. Qui, à un moment donné, va être complémentaire, va m'amener quelque chose de complémentaire à moi. Voilà. Et donc, masculinité complémentaire de la féminité. Voilà. Donc, à ce niveau-là. Et généralement, ces femmes qui me disent ça sont des femmes que moi je qualifie de plutôt féminines. Voilà. Donc, ils vous diront, ah, mais Eddie, qu'est-ce que c'est que la définition de la féminité? Eh ben, je sais pas, moi, un truc tout simple. C'est-à-dire que visuellement, je sais qu'en face de moi, j'ai une femme et pas un mec. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, la théorie de la meuf qui fait de la moto, qui me ressemble et qui soulève des poids, ça me fait pas rêver en fait. Voilà, techniquement, ça me fait pas envie, parce que dans ce cas-là, il faudrait que je me tape un de mes potes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça aussi, on le constate, hein, avec aussi, si on regarde dans les boutiques, etc., les fringues qui sont similaires, donc on devrait... Parce que c'est ça, hein, c'est la théorie du jogging, mais tout le monde met un jogging XXL. Donc on se coupe tous les cheveux, voilà, on se laisse tous pousser les poils, hein, parce que c'est ça. Hein. Regardez, je vais vous dessiner un schéma qui va vous plaire. On exagère un peu le trait, mais on y est, en fait. Hein. Regardez bien. Donc en fait, on est tous égaux, hein, homme-femme, hein, on est pareil, voilà. Et à un moment donné, on met tous les mêmes joggings, on cesse tous pousser les poils, en fait, on a tous la même coupe de cheveux. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Et puis au final, on fusionne. Nickel. Et on s'appelle tous Gérard, en fait. C'est ça, votre société du futur? Ben, vous la prenez, vous la carrez dans le cul, en fait. Voilà. Donc, moi, techniquement, si ça se passe comme ça, je vous le donne en mille, vous avez intérêt à développer un autre mode de reproduction humaine, qui serait celle qu'on peut voir sur Krypton, là, dans l'intro du Superman qu'avait fait Zack Snyder, en fait, voilà, Man of Steel, voilà, parce que techniquement, je vous le donne en mille, moi, j'aurais plus envie de coucher avec quelqu'un qu'on appelle une femme, en fait, j'aurais plus envie, parce que c'est coucher avec mon pote, en fait, voilà. Donc, à un moment donné, j'aurais plus envie de me reproduire. Donc, à mon avis, si on continue comme ça, si on grossit le trait, voilà, développer un autre moyen, voilà, via la génétique, qu'on puisse se reproduire, parce qu'on couchera plus ensemble. Et comme cette chose-là, elle va être sûrement faite par des putains d'IA, l'IA aura vite compris, façon Skynet, qu'il faut nous détruire. Donc, game over, en fait. Voilà, j'ai envie de vous dire. ChatGPT, là, en version 12, quand il en sera là, il se dira, non, en fait, on va pas les reproduire génétiquement. On va tout dober, on va tout niquer, comme ça au moins. Et puis, vous verrez qu'au final, tous les problèmes seront résolus, en fait. C'est-à-dire que la planète écologiquement se portera mieux. Je parlerai plus dans ce micro, vous pourrez plus m'écouter, tout le monde sera mort et tout le monde sera content. Voilà. Et on appellera ça la sixième extinction. Voilà. Par ChatGPT. Et c'est pas beau. Et je viens pas de déboucher sur un truc incroyable, je pourrais presque conclure là-dessus, putain de merde. Voilà. Donc, c'était incroyable. Donc voilà, faut arrêter le bordel. Voilà. Je dis bien qu'à un moment donné, les gens en ont ras le cul. Donc, de manière globale, non. Alors la fragilité, oui, à un moment donné. Oui à la fragilité, dans quel sens? La vulnérabilité. Bien sûr qu'il faut prendre en compte les accidents de la vie, les accidents de parcours, les maladies. Il faut prendre en compte ces choses-là. Ça, il n'y a pas de souci. Donc oui à la prise en charge de la vulnérabilité. Mais on l'a toujours fait, quelque part. Par contre, non à la fragilité comme doxa globale. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un, il faut le cancel ou il faut l'annuler, ou il faut « non, mais tu comprends, il ne faudrait pas, non, non, non ». Les gens qui ont de l'ambition, à un moment donné, il me semble que ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en ayant de la fragilité qu'on a été sur la Lune. Ce n'est pas toutes les inventions, toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, Steve Jobs, mais ce n'est pas par fragilité qu'il a inventé le smartphone. Hein. Ce n'est pas grâce à la fragilité. Hein. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réel, c'est dur, et que pour se dépasser dans le réel, dans ses objectifs professionnels, quand on se fixe des objectifs, c'est comme aller à la salle de sport, bordel. Non, et si tu veux des muscles, soulève du poids. Et soulever du poids, ça fait mal. Et puis, il faut le faire souvent. Et des fois, ça te fera chier. Et puis, t'es fatigué. Voilà, mais voilà, c'est cette image-là. Donc, tu veux inventer un truc, faut bosser des sciences dures. Et c'est compliqué, et c'est chiant, et c'est relou. Et voilà, tout est question de maintien, d'entraînement, de se fixer des objectifs, et à un moment donné, de pas baisser les bras. Donc, je veux dire, putain de merde, regardez les sportifs, quoi. Je sais pas, moi, on n'est pas ballon d'or, ou on n'a pas une bague de champion NBA. Comme ça, en branlant pas une, quoi, et en chialant, c'est pas vrai. Ou sinon, tu chiales de douleur, mais tu continues en fait. Voilà, tu continues à taper dedans. Donc voilà, putain, merde, quoi. Donc c'est pour ça que non à ce truc là. Et les gens en ont à ras-le-bol. Vous nous faites chier, en fait. Donc, à un moment donné, voilà. T'as un problème X ou Y, t'as mal quelque part, va voir un médecin. T'as des problèmes à régler psychologiquement, va voir un psy. Mais putain, à un moment donné, ne les expose pas, ne nous casse pas les couilles et ne transforme pas, en fait, quelque chose qui ne te plaît pas comme une nouvelle doctrine. À un moment donné, si t'as décidé d'être une table basse, tous les autres gens n'ont pas décidé, eux, d'être une table basse. Voilà. Donc dans ce cas-là, respecte. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que ces minorités, ces gens-là, voilà, même moi, ce que j'ai eu à mon entretien, se disent tolérants, mais par ces discours-là, sont plus intolérants que les intolérants qu'ils pointent du doigt, en fait. Voilà. Comprenez ? De toute façon, ça a toujours été ce cas-là. Hein. C'est pour ça que moi, je me suis toujours méfié de tous les religieux, quels qu'ils soient. Ils se trimballent avec des bouquins qui prônent la tolérance. Et l'histoire du monde nous montre que ce sont les premiers à brûler et à exploser la gueule du voisin parce qu'il est différent, en fait. Voilà. Donc, moi, je retiens que ça. Donc, voilà. Effectivement, arrêtez de nous casser les couilles. À la question de la fragilité, oui, pour de la vraie vulnérabilité, oui, pour des choses importantes qu'il faut prendre en compte. Voilà, bien entendu. Bien entendu qu'il faut avoir de l'empathie et bien entendu que il faut se soucier les uns des autres à hauteur de ce qu'on peut faire. Voilà, on a des services qui sont mis en place, etc. Maintenant, de casser les couilles aux gens parce que nous, on est dans la médiocrité, qu'on est incapable à un moment donné, ben, chacun reste à son niveau et vient pas faire chier, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce sujet. Donc, bien entendu, j'aurai d'autres sujets à aborder dans ce quatrième volume que je sens vénère au final. Finalement, moi je suis arrivé à une forme de sérénité, mais la sérénité N'entame en rien ma verve, en fait. C'est plutôt intéressant, ça. Donc, je vais vous surprendre sur le prochain épisode, parce que le prochain épisode, je vais tenter de faire une sorte d'essai. Voilà. Alors, ce ne sera pas du slam verbal, mais je pense que je vais dédier un épisode aux femmes. Et c'est une idée qui me plaît bien, et avec une musique un peu chill et positive, et en forme, en fait, de... Toujours dans une vision un peu positive de ce que j'aime chez vous, et ce qu'il ne faut surtout pas changer, et ce que parfois je déplore, mais qu'il faudrait que toi, F, tu prennes en compte. Donc voilà, c'est vraiment genre une forme de message, et quelque part, une ode à vous, mesdames, voilà, de ce que vous avez de plus beau qu'il ne faut pas transformer, en fait. Et je pense que ça serait le... Je vois bien cette image un petit peu comme la lutte pacifique. Contre tout ce que j'ai cité dans cet épisode-là. Vous voyez, comme la petite colombe face au fusil, en fait, du néo-féminisme, mais de, voilà, peut-être de prendre les choses sous un autre revers, et d'amener, ça serait présomptueux pour moi de dire ce que vous devriez faire, et pas, mais plutôt ce que j'aime et ce que j'aime moins, et ce qui n'est pas une bonne chose en me plaçant dans une posture, en fait, qui est celle de l'homme contemporain, vous avez compris, hein, le vilain patriarcat, le patriarcaca. Donc, celui qui est trop sûr de lui et qui est arrogant, en fait, qui est dans la séduction. Enfin, voilà. Bref. Donc, voilà. Donc, ça sera pour le prochain épisode. Donc, ça sera pas ce que pensent les femmes, mais ce que j'aime et ce que j'aime moins chez les femmes. Ça sera peut-être ça, le titre de l'épisode. Donc, voilà, c'est le premier chapitre de ce nouveau volume podcastique intitulé « Arpenter le chemin ». Le 22e épisode de Chronique d'un Quadra. Et à Chronique d'un Quadra, on a l'habitude, on décomplexe les sujets complexes. Merci pour votre écoute. Nichols, AOTP, North Philly, Badlands, South Philly, West Philly, punch you in the face rap, box cutter, Bazzy, fucking dummy, you stupid.
Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin.
C'était Chronique d'un Quadra, le podcast sans langue de bois qui décomplexe les sujets complexes.